Je vous inviterai à faire une lecture, une première lecture avec moi dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, c'est au psaume 34 que je voulais lire avec vous trois versets, les versets 5, 6 et 7. Psaume 34, versets 5, 6 et 7, c'est un psaume de David. Vous savez que David a eu un parcours un petit peu particulier, on va dire pas mal agité même. J'ai un peu de résonance là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a eu des moments très très difficiles jusqu'à être obligé d'aller se réfugier chez ses ennemis. Donc c'était peut-être pas le meilleur endroit pour être à l'abri. Et il s'est réfugié chez son ennemi jusqu'au moment où... De l'autre côté de la frontière, on s'est dit « Mais c'est qui celui-là ? C'est pas David, le roi David ?» Et tout à coup, on a cru tenir un trophée, un trophée de guerre. Et pour s'en sortir, David a fait le fou. Et les gens ont dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on tue un fou ? Il est fou, laissons-le aller. Laissons-le s'en aller. » Il a sauvé sa vie grâce à cela. Quelquefois, les choix que l'on fait sont pas forcément très bons. Mais c'est à cette occasion qu'il a écrit ce psaume. Et je pense qu'il a dû sentir le vent souffler très très fort, il a dû sentir la mort arriver à grands pas, et quand c'est comme ça, on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'on peut faire et comment s'en sortir. Alors il a crié à Dieu, il s'est tourné vers Dieu, il a crié à Dieu, et Dieu lui est venu en aide. Et voilà quelle est sa conclusion, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeur. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Je m'arrêterai sur cette transformation qui s'opère lorsque quelqu'un tourne ses regards vers Dieu. On l'a lu ensemble. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous connaissez certainement cette petite anecdote d'un homme qui allait vraiment pas bien et qui a décidé d'aller voir le médecin parce que c'était morose, ça allait pas, il déprimait, hein, pas mal. Et donc, il va consulter le médecin. C'était pas son médecin qui le connaissait parce que lui était avait un métier sur la route. Donc, là, dans la ville où il s'est rendu, il a été trouvé un médecin et le médecin a compris qu'il était déprimé. C'était de la déprime. Ça pouvait se transformer, peut-être en dépression, etc. Alors, il a essayé de lui demander s'il y avait des choses qui l'intéressaient, s'il y avait des choses qui lui plaisaient, etc. Et puis, voyant qu'il n'y avait plus rien, mais absolument rien, qui pouvait l'intéresser, lui plaire, il sentait que, c'était peut-être pas encore le temps de lui donner des médicaments assez forts. Il essayait de trouver autre chose, quelque chose de plus naturel, de plus évident. Et il a eu une idée tout d'un coup. Il s'est dit « Oui, mais attendez ». Il y a quelques jours, j'ai emmené mes petits-enfants au cirque. Il y avait un cirque dans la ville. J'ai emmené mes petits-enfants au cirque et il y a des tas de numéros. Mais alors, il y a un clown, il est exceptionnel. Vous devriez y aller, hein ? Et le gars l'a regardé et dit « Non, je n'ai pas envie d'y aller. » « Mais si, je vous assure, il est très bon. Ça vous fera du bien. » « Non, je veux pas. » « Mais pourquoi ? Vous aimez pas le cirque ?» Il dit « Non, le clown, c'est moi. » C'était lui le clown. Sauf qu'avec un visage, avec un masque, on peut maquiller la vérité quelquefois et on peut sembler autre. Et c'est vrai que vous avez remarqué en général les visages des clowns, même s'ils ne sourient pas, il y a un maquillage qui fait qu'ils ont le sourire. Il y a quelques années de cela, on a créé le fameux smiley. Vous savez, c'est un petit point jaune avec deux yeux, enfin, ça représente une tête, et puis un sourire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, dans notre salle de bain, on en a un qui est accroché sur le mur. Je ne sais pas depuis quand on l'a, mais on avait dû récupérer ça comme un autocollant, un truc en mousse. Et puis un jour, il me semble que c'est moi qui l'ai fait, mais je ne sais plus quand. Je l'ai accroché comme cela sur le carreau et je me suis dit comme ça, à chaque fois que je te verrai, ça me donnera envie de sourire. Un smiley. Quand on tourne les regards vers lui, vers Dieu, on est rayonnant de joie. Je vais vous montrer par l'exemple, parce que rien de mieux que la preuve par l'exemple, évidemment, que quand on tourne les regards vers Dieu, on a toujours une réponse à la hauteur du besoin. On a toujours la réponse qu'il nous faut, et c'est évident que ça peut bien se terminer, une histoire peut bien se terminer de cette manière-là. Un des exemples que l'on trouve se situe dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une femme qui a connu un moment difficile, la pauvre. On trouve son histoire, je vais juste vous résumer cela avec quelques versets. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, au verset 1er, il est dit ceci. « Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. » Verset 6. « Pénina prodiguait des mortifications à Anne pour la porter à s'irriter contre Dieu, contre l'Éternel, qui l'avait rendue stérile. » Et puis verset 8. « Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point, ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni bu, ni vin, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. » Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Vous avez vu comment une seule rencontre, en somme avec Dieu, a transformé même son visage. Ça a été une réelle transformation. Si on avait lu le texte en suivant, on se serait rendu compte que l'année d'après, quelque temps après, elle est tombée enceinte et l'année d'après, elle avait un fils. Donc c'est exactement comme Dieu en avait fait la promesse. Je crois que la réponse que Dieu peut nous donner quand on s'adresse à lui, elle risque fort de se voir même sur le visage. Parce que si Dieu vous répond, si Dieu intervient en votre faveur, il est évident que votre visage va être changé. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Je crois que le visage, c'est un petit peu comme un livre ouvert. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez tout de suite s'il va bien ou s'il va pas bien. Non ? Il n'a pas besoin de vous parler quelquefois, si vous le connaissez assez bien. Vous savez que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ou il est très heureux. Ça se voit sur le visage, c'est comme ça. C'est un miroir, un reflet de l'âme, certainement. Et chez Anne, on comprend la douleur. Tout cela est expliqué. Ça faisait des années qu'elle voulait avoir des enfants. Elle n'y arrivait pas. Elle considérait ça comme un triste jugement, une faiblesse pour elle. Elle aurait tellement voulu avoir des enfants, qui plus est. On est dans une famille polygame. La seconde épouse, elle a des enfants, qui plus est. Elle va se moquer d'elle, elle va la mortifier. Bref, c'est une situation douloureuse, tellement pénible. Mais quand Dieu va exaucer cette femme, immédiatement, ça va se voir sur son visage. Finalement, ce visage qui est transformé, ce visage qui est différent, parle d'une guérison intérieure. Ça parle d'une intervention de Dieu. À l'intérieur de son cœur, il s'est passé quelque chose. La restauration intérieure, elle est en route. Et on voit bien que quelques temps plus tard, ça a été révélé exact, puisqu'elle donnera naissance, pas à n'importe qui, même à l'enfant que l'on appellera Samuel, mais qui plus tard servira Dieu. La décision qu'elle a eue de chercher en Dieu la solution a été efficace et elle a été juste. C'était la bonne solution. Aujourd'hui, on aimerait être heureux, on aimerait avoir certainement un autre visage. L'actualité ne nous fait pas toujours sourire. Il y a un visage qui a traversé la toile ces derniers jours. C'est le visage d'un enfant qui a subi des bombardements et on voit son visage tout huméfié. Et un commentaire disait « Il a eu plus de chance que son frère qui, lui, est mort après quelques jours d'hospitalisation ». La guerre a quelque chose d'affreux, évidemment, et on montre des visages pour impressionner, pour marquer. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que c'est pas en nous montrant des visages de désolation, de mort et de tristesse que ça va vous rendre heureux. Malheureusement, c'est la réalité, mais c'est pas ça qui vous rendra heureux. Par contre, cherchez en Dieu la solution. Tournez vos regards vers Dieu pour trouver une solution. Ça, ça fera la différence, certainement. Le livre d'Ésaïe, d'ailleurs, dit ceci au chapitre 41. Et au verset 10, « Ne crains rien », c'est comme si Dieu vous le disait à vous cet après-midi, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ne portez pas des regards inquiets autour de vous en disant « Mais qui me fera voir le bonheur ? D'où le bonheur viendra ?» Le texte nous montre que c'est en Dieu que l'on peut trouver le réconfort parce qu'il existe des promesses. Il existe des promesses. Alors le visage peut avoir différents aspects. Et d'ailleurs, on voit ça chez des jeunes enfants, voire même des bébés. Ils sont tout petits, mais vous voyez quand ils ont mal, vous voyez quand ils sont tristes, vous voyez quand ils sont en colère, vous voyez quand ils font la tête, un caprice, etc. Ça se voit. Et c'est quand même assez incroyable que vous prenez n'importe quel enfant sur la face de la terre, il n'a pas été à l'école pour qu'on lui apprenne comment bouder, il s'est boudé. Ça se voit sur le visage aussi. C'est incroyable quand même. Il n'a même pas regardé un grand frère ou une grande sœur, c'est instinctif. Le visage marque des traits, c'est incroyable comme c'est dessiné, comme c'est écrit. Et autant un enfant émerveillé, un enfant qui n'en revient pas, etc. Le visage, l'expression, c'est comme inné. On le voit très rapidement. Eh bien, le visage reflète beaucoup de choses et ça peut commencer par un visage abattu. Il y a un homme dans la Bible qui un jour a eu un visage abattu. C'est l'histoire d'un échec. C'est l'histoire d'une contre-performance. Ça fait quelques semaines qu'on nous parle de performance et de contre-performance. Ceux qui aiment le sport, vous l'avez vu à la télévision certainement, ou en tous les cas, vous avez suivi les exploits ou les échecs de certains. Et il est évident qu'on s'interroge toujours sur la pertinence des journalistes qui veulent interviewer quelqu'un 10 secondes après qu'il ait perdu. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour interroger quelqu'un. Et alors ils vont l'interroger en disant « Alors, vous avez perdu, ça vous fait quoi ?» Et j'en ai pas vu un, je vais pas tout regarder, hein. Mais j'en ai pas vu un qui a dit « Oh purée, qu'est-ce que je suis content d'avoir perdu ?» Mais il n'y en a pas un qui va dire ça. Alors on imagine que vous êtes triste. Et t'en penses quoi, toi ? Ben c'est sûr, des années. Ou alors à celui qui a gagné. Quel sentiment vous éprouvez ? Vous êtes satisfait ? Ah non, non, j'ai gagné. Ça me fait de la peine pour celui qui a perdu. Hein. Le pauvre, il a que la médaille d'argent. C'est triste. C'est évident que dans l'instant... C'est peut-être pas le moment où il faut y aller parce que tout est dit dans le visage. On voit la tristesse, on voit l'abattement, on voit la souffrance. Et j'en ai un comme ça, dont vous connaissez la vie, ou en tous les cas une partie de son histoire. C'est, comme je le disais, l'histoire d'une contre-performance. Il s'est approché de Dieu, il a voulu faire plaisir à Dieu, et Dieu n'a pas été trop content de ce qu'il a fait. Ça peut nous arriver 100 fois. Ça vous est peut-être déjà arrivé 10 fois, 100 fois, 1000 fois, en vous posant la question, mais je comprends pas avec tous les efforts que je fais, pourquoi Dieu n'est pas content? Pourquoi Dieu n'est pas satisfait? Pourquoi il ne me dit rien? C'est tout simplement parce que c'est une contre-performance. C'est pas ce que Dieu attend. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses, il les aurait vues autrement. On trouve son histoire dans la Genèse, au chapitre 4 du livre de la Genèse. Il nous est dit que Dieu va s'adresser à cet homme qui s'appelle Caïn, et il va lui dire « Pourquoi ton visage est-il abattu ? Qu'est-ce qui se passe quand tu as un problème ? C'est vrai que quelquefois, quand des personnes nous demandent si, parce que ça se voit sur le visage, si on a un problème et si on veut en parler, on a tendance à leur dire « non, j'ai pas envie d'en parler ». Bon. Mais là, c'est quand même Dieu qui lui pose la question. Si vous êtes plutôt réservé, si vous êtes plutôt secret et que vous n'aimez pas vous étaler, c'est pas grave. Mais si c'est Dieu qui vous pose la question, mais pourquoi ça va pas ? Moi, je vous encourage à lui parler. Hein. Je vous encourage à le lui dire pourquoi. Je vous encourage à ne rien cacher, à ne pas dire ça t'intéresse pas, c'est mon problème, c'est pas ton affaire, c'est la mienne. Non, dites-lui, expliquez-lui. Parce que quand Dieu s'adresse à Caïn, il va lui dire, écoute, j'ai le sentiment que tu vas pas bien, je comprends que les choses ne vont pas bien, mais si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis bien, tu vas comprendre tes erreurs, tu vas comprendre ce qui n'a pas marché, tu vas comprendre pourquoi j'ai pas accepté ce que tu as fait, tu vas écouter ce que je vais te dire, et tu vas changer l'attitude, tu vas changer de façon de faire. Rien n'y fait. La Bible nous dit que Caïn n'écoutera pas Dieu. C'est l'histoire, là encore, d'une colère qui va grandir. C'est l'histoire d'un homme vexé, d'un homme qui ne veut pas reconnaître et surtout pas accepter qu'il s'est peut-être trompé. C'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais si c'est Dieu qui vous met devant le fait accompli, ça ne sert à rien de lui dire que lui se trompe et que vous, vous avez raison. Parce que lui ne se trompe pas. Il ne s'est jamais trompé. Il ne se trompera jamais. Et s'il met le doigt sur la plaie, s'il dit « Hey, il y a un problème là », écoutez-le au moins. Caïn n'a pas écouté. Caïn a dit non, j'écoute pas, ça m'intéresse pas. Et quelque part, par son refus d'écouter, vous comprenez qu'il a refusé d'accepter de l'aide. Dieu voulait l'aider. Il l'a refusé. Ça s'est mal terminé. Hein. Ça s'est mal terminé puisque finalement, sa colère a pris le dessus. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Fais attention. Il risque de te dominer, tu devrais dominer sur lui, il risque de t'emporter. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque être abattu, ce n'était pas le pire, mais ça prédispose au pire. Et quelque temps plus tard, il s'est disputé avec son frère, c'était l'objet de son abattement, c'était à son idée, c'était à cause de son frère que Dieu ne l'avait pas approuvé, c'était pas ça la vérité, mais il l'a interprété comme ça, et la dispute a été si violente qu'il a fini par tuer son frère. Donc on ne se rend pas compte qu'un esprit et qu'un visage abattu peut entraîner beaucoup plus loin. L'apôtre Paul a vécu des situations d'abattement, souvent il a vécu des situations d'abattement, mais regardez comment lui réagira, il va en rendre témoignage dans une de ses lettres, et il dira ceci dans sa deuxième lettre au chapitre 4 et au verset 10, Il dit ceci, même au verset 9, « Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Visage abattu quelquefois, mais pas perdu. Dieu est là, Dieu est fidèle, Dieu prend soin, Dieu s'occupe. Et Caïn aurait dû faire attention et Caïn n'a pas pris garde. Et finalement, il s'est prédisposé à une action qui allait être bien plus dommageable et sans retour possible. Il a été trop loin. Maintenant, un visage abattu, c'est une chose, mais quelquefois le visage est à ce point en colère que là aussi, il vaut mieux passer à côté hein, de celui qui est en colère. Vous avez dans le Nouveau Testament l'histoire d'un homme qui, là aussi, avait des prédispositions. C'était un homme qui vivait dans sa famille, il n'avait pas pris ses valises, il était resté chez lui. Et c'était un homme qui, manifestement, ne manquait de rien. Ça ne semblait pas une famille nombreuse, ils étaient au moins deux. Et par contre, à un moment donné, sur les deux, le plus jeune a décidé de faire sa valise et de s'en aller. Bon. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 15 que quand le plus jeune a rassemblé toutes ses affaires, il a vidé son propre compte en banque qui était alimenté par le papa et il a pris son argent, il a pris ses affaires, il est parti très loin et la Bible dit qu'il a dépensé tout ce qu'il avait. Tant qu'il a pu dépenser, il l'a fait. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. On va au Pôle emploi, il n'y a pas de boulot. On va essayer de trouver quelques amis. Toutes les portes sont fermées, à croire que tout le monde est parti en vacances. Il n'y a plus personne qui peut vous aider. Mais il a eu un sursaut. Et ça a été salutaire pour lui. Il s'est souvenu quand même, et c'est bon de s'en souvenir, il s'est souvenu qu'il restait quand même quelqu'un qui devait l'aimer sur la terre. Et celui qui devait l'aimer, ben c'était certainement son père. Alors il a décidé de rentrer à la maison. Quand bien même, le prophète Ésaïe dira, « Quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, dit Dieu, je ne t'abandonnerai pas. » S'il arrivait à quelqu'un d'imaginer qu'il n'a absolument personne sur qui compter parce que personne ne l'aime, moi je vous dis qu'il en reste un, c'est Dieu, et il vous aime. Ça c'est certain qu'il vous aime. Alors il a fallu faire demi-tour, ça on imagine pas été facile, hein, de faire demi-tour, mais il l'a fait. Et quand il est arrivé chez lui, ça a été la surprise, il s'imaginait pas que ça se passerait comme ça, mais son père l'a accueilli, il lui a sauté au cou, il a ordonné qu'on fasse la fête, qu'on sacrifie le veau gras, on lui a permis d'aller prendre une douche, de changer ses vêtements, d'être tout beau, parce que on va faire la fête. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Mon fils, je pensais jamais le revoir, il était parti trop loin, je le vois maintenant là dans ma maison, ça me fait tellement plaisir, on va faire la fête. Jusque-là, le tableau est parfait. Jusque-là, le tableau est parfait. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient deux. Ça, c'est le plus jeune qui a tout raté, qui a gaspillé l'argent de la famille, qui a dilapidé la moitié de l'héritage et du trésor. Donc, il n'a pas de quoi être fier, mais apparemment, il ne l'est pas. Il revient. Et le deuxième, l'aîné, lui, il n'avait jamais bougé. Il est toujours resté là. Il avait jamais quitté la maison. Pour lui, c'était comme un devoir, évidemment, de rester là. Et il a servi son père. On ne sait pas dans quel état il a servi son père, jusqu'au moment où il va le dire. Et ce qu'il va dire, ben les bras vous en tombent. Parce que finalement, il y avait des tas de choses qu'il vivait très très mal. C'est fou, hein ? Peut vivre avec quelqu'un sans le connaître, apparemment, ou en tous les cas sans comprendre les frustrations, les difficultés, les peines, les douleurs, ça semble tellement incroyable. Et là, je m'aperçois que quand le frère aîné revient des champs, parce que lui, il était en train de travailler aux champs, et qu'il arrive à la maison, et qu'il se rend compte qu'on fait la fête, il pose une question, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est en effervescence. Il se passe que ton frère est revenu, il a entendu de la musique, des danses. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. La Bible dit que quand il a entendu ça, le frère aîné s'est mis en colère, et il a refusé de rentrer. On est venu prévenir le père, qui est sorti, pour aller voir son aîné, en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Rentre !» Il le pria de rentrer, mais il répondit à son père, et c'est là où je m'arrête. « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » C'est l'histoire d'une amertume qui a vieilli, une jalousie qui n'a jamais été finalement réparée, guérie. Un introverti, quelqu'un qui parle pas, mais quelqu'un qui est malheureux. Son père en revient pas. Et son père va lui dire, mais tout ce qui est là, c'est à toi. Tu me dis que je t'ai jamais rien donné. Mais est-ce que je t'ai empêché de prendre quelque chose une fois ? Est-ce qu'un jour, je t'ai privé de faire quelque chose ? Jamais ! T'as rien demandé. Ça me fait tout à fait penser à ceux qui en veulent à Dieu, mais alors à un point d'une force, en se disant « Dieu m'aime pas, il a jamais rien fait pour moi. » Mais les bras peuvent lui en tomber, hein, en disant « Mais quand est-ce que tu m'as demandé quelque chose ? T'as rien eu ? Mais quand est-ce que tu m'as demandé quelque chose ? Tu dis que je t'ai rien donné, mais est-ce que tu m'as demandé quelque chose que je t'ai refusé ?» Le père comprend pas, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre, sinon que le visage est triste et en colère, plutôt en colère. Parce que voilà un homme qui avait tout à portée de main. Voilà quelqu'un qui était aimé autant que son frère. Apparemment, le père semble pas faire de différence, vous l'avez compris. Parce que s'il avait fait des différences, là, on peut comprendre. Mais là, manifestement, il n'y avait pas de différence. Et finalement, il y avait toujours des possibilités. Il n'y en avait qu'un qui ne le savait pas, c'était lui. Si vous ne savez pas que Dieu peut changer votre vie, au moins maintenant, vous le savez. Si jusqu'à maintenant, vous l'ignoriez, Maintenant, vous le savez. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas imaginé que Dieu pouvait faire quelque chose pour vous, ne dites plus cela parce que moi, je vous dis que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Un jour, le roi David a connu une période un petit peu trouble comme ça. Il s'était mal comporté, il avait mal agi, il avait agi d'une manière criminelle. Il avait même tué un de ses collaborateurs, un de ses chefs militaires. Il l'avait tué parce qu'il avait, il l'avait trompé en couchant avec la femme de cet homme-là. Mais devant une situation, manifestement, on ne va pas s'en sortir. Il n'a qu'une solution, c'est de tuer le pauvre homme. Et quand cette veuve aura pleuré son mari défunt, il finira par l'épouser, donc c'est quand même pas une situation très heureuse. Alors il va cacher tout ça. Sauf que vous pouvez le cacher à tout le monde, mais vous le cacherez jamais à vous-même. Vous le cacherez jamais à vous-même et vous ne le cacherez jamais à Dieu. J'ai rencontré pendant quelques années une personne qui allait pas bien et elle n'allait jamais bien. Depuis toujours que je l'avais connue, elle n'allait pas bien. Et puis un jour, elle m'a expliqué ce qui l'a rongée à l'intérieur. C'est un problème, c'était une situation qui était vieille de 20 ans, au moins 20 ans. Elle s'était, plus que cela même, 25 ans. Elle s'était jamais remise de cette situation, jamais. Et elle bataillait, elle luttait, donc sa vie avait continué. Mais c'était un os, c'est une pierre dans la chaussure, c'était épouvantable. C'est épouvantable. Et chercher des solutions, elle n'en trouvait pas. Alors on a discuté, on a parlé, on a prié, on a essayé d'aider cette personne-là. Elle ne s'en est jamais sortie. Jamais. C'est triste quand même d'être comme en colère en disant « Personne ne me donne la solution. » Alors que moi, je vous dis, Dieu a la solution. Le roi David, qui s'est trouvé dans une situation, finalement, il avait tout caché, mais ça ne sert à rien de tout cacher. À un moment donné, il va tout avouer devant Dieu parce que quelque part, on l'a pressé à le faire. Un prophète est venu le trouver et lui a raconté toute une histoire concernant un homme riche, un pauvre, et l'homme riche a pris la seule brebis qui appartenait à l'homme pauvre pour nourrir un de ses amis qui était venu lui rendre visite. Il n'a même pas été dans son enclos pour prendre un animal et il a enlevé le trésor de ce pauvre homme, la seule chose qu'il possédait. Et quand le roi David a appris ça, il s'est mis en colère en disant « Mais quel est cet homme riche, aussi cruel, aussi méchant? Il faut le punir !» Et le prophète Nathan lui dira « Cet homme, c'est toi. Tu as pris la femme d'un homme qui t'avait rien demandé, une femme qui t'avait rien demandé. Tu as même enlevé la vie de cet homme. Tu es criminel. » Et là, il s'est senti dévoilé. Mais il dira quand même une chose. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Je gémissais toute la journée. » Et puis j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel et il a effacé même la peine de mon péché. On ne peut pas revenir en arrière, il y a des choses qui ont été faites, c'est comme ça. Hein. Mais la peine, ça Dieu peut vous en débarrasser, gloire à Dieu, ça Dieu peut vous en débarrasser. Alors un visage colère a besoin de s'exprimer, mais exprimez-vous devant Dieu. Finalement cet homme, il est dur. Il est sévère avec son frère, ton fils, il parle même pas, il dit pas mon frère, hein, vous avez remarqué, il dit ton fils, c'est son frère, ton fils, qui a mangé ton bien avec les prostituées, il est prêt à l'enfoncer la tête sous l'eau, hein. Ton fils qui a fait cela, c'est un homme méchant, c'est un homme sévère, parce que c'est un homme qui est malheureux depuis trop longtemps. On n'imagine pas ce que la souffrance peut provoquer comme sentiment, mais moi je vous dis que à toutes les souffrances, Dieu a la solution. C'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui change le visage, c'est un Dieu qui transforme un cœur abattu et c'est un Dieu qui donne la joie là où il n'y a que peine et souffrance. Amen. Maintenant, sans aller jusque-là, il est possible que notre cœur soit simplement triste. Vous avez une belle âme, un cœur sincère, un cœur pur. C'est vraiment une belle âme. Quelqu'un qui vient vers Jésus, on trouve son histoire dans l'évangile de Luc également au chapitre 18, et cet homme, depuis son enfance, cherche à plaire à Dieu, il est sincère, il veut plaire à Dieu. Et donc, il vient vers Jésus en disant, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la certitude, pour avoir l'assurance que j'irai au ciel ?» Parce que si vous ne le savez pas, il y a deux possibilités. Soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer. Monsieur Polnareff s'est trompé. On n'ira pas tous au paradis. Non, non. Il y en a qui vont au ciel, et il y en a qui n'iront pas au ciel. Mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas d'endroit où il ne se passe rien, un petit peu neutre, une espèce de désintégration où on ne ressentira plus rien. C'est où le ciel ou l'enfer, malheureusement. Mais c'est où le ciel ou l'enfer? Et cet homme n'a pas du tout envie d'aller en enfer, il veut aller au ciel. Alors il s'adresse à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Jésus va lui rappeler les commandements. La piété, la foi, l'obéissance à Dieu, faire confiance au Seigneur, obéir aux commandements. Et cet homme va lui dire, mais je fais cela. Depuis que je suis tout petit, on me l'a enseigné. Je fais cela depuis mon enfance. Qu'est-ce qu'il me manque encore? C'est quand même incroyable. Voilà quelqu'un qui est sincère. Voilà quelqu'un qui fait tout ce qu'il doit faire. Et pourtant, il a encore un vide dans son cœur. C'est curieux, ça. Comment ça se fait? Je ne sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais il est possible que vous vous êtes posé la question, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que je pouvais, pourquoi j'ai encore un vide dans mon cœur? En fait, ce n'est peut-être pas un vide, c'est peut-être une pièce du puzzle qui n'est pas à sa place. En fait, c'est quelque chose qui est dans le cœur qui ne devrait pas y être. Et si vous enlevez cette chose, alors, à ce moment-là, Dieu prendra le reste de place qu'il lui fallait prendre, et là, vous serez satisfait, heureux. Jésus va regarder cet homme, c'était un jeune homme, la Bible nous dit dans un autre passage. Et Jésus sait exactement où est le problème. Et il va lui dire, écoute, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Car il avait de grands biens. Je pense que si on a rapporté que cet homme est devenu tout triste, c'est que ça s'est vu. Hein. Je pense qu'avec le sourire, il a regardé tout le monde en disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis triste !» Ça s'est vu. C'est une mauvaise nouvelle pour lui. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Il aurait espéré autre chose. « Demande-moi ce que tu veux, aller à genoux jusque à la Guée, à Lourdes ou là-haut, un petit peu plus haut. » Pourquoi pas ? Demande-moi ce que tu veux. Il faut que je donne de l'argent, il faut que j'aide les malheureux. Je ferai autant que j'en garde un peu quand même. Et là, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Tout. Tu le donnes aux pauvres. Ah, tu vas faire beaucoup de bien parce que tu es très riche. Tu vas faire beaucoup de bien. Puis après, tu me suis. Après, tu me fais confiance. C'est ça que ça veut dire. Après, tu me fais confiance. C'est une belle âme. Ça fait mal au cœur de la voir partir tout triste. Ça fait mal au cœur quand même de la voir partir comme ça et de se dire mince. Les liens, quelquefois les plus solides, ceux qui nous tiennent le plus, ne sont pas forcément les plus visibles. Et les pièges les plus sournois ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. On n'imagine pas que cet homme n'a pas imaginé que l'argent pouvait être à ce point tellement important pour lui. D'ailleurs, c'est quand on n'en a pas qu'on comprend que c'est important l'argent. Quand on en a, on ne s'en rend pas compte que c'est important. Celui qui n'en a pas et qui ne peut pas nourrir ses enfants, il aimerait bien avoir 10 euros. Celui qui a 1 million d'euros, il ne se rendra pas compte. S'il lui en manque 100 000, 200 000, bof, 10 euros, c'est rien. Mais oui, c'est quand on en a qu'on ne s'en rend pas compte. Et là, il ne s'est pas rendu compte que ça prenait tellement de place chez lui, que ça avait pris la place de Dieu. En fait, il n'y avait pas un vide, sauf qu'il enlevait l'argent de ses motivations, de ses centres d'intérêt. Et là, tout d'un coup, il y avait un immense vide dans son cœur. Et ça lui a fait peur, ça l'a déstabilisé, ça ne lui a pas convenu. Il a décidé de s'en aller tout triste. Je crois que les décisions les plus importantes, forcément, sont les plus difficiles à prendre. Mais ça reste les plus importantes, évidemment. Première décision à prendre, c'était de faire confiance à Dieu et de lui remettre sa vie. Et il a eu du mal. Moi, je vous encourage à le faire. Faites confiance au Seigneur et remettez-lui toute votre vie. Oui, mais demain, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais arranger les choses? Comment? Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et deuxièmement, détachez-vous. Se détacher soi-même de toutes ces richesses, c'est pas forcément de l'argent, c'est ses prétentions, ses envies, ses désirs, etc. Et laissez Dieu gérer votre vie. Si vous lui faites confiance, vous ne serez pas déçu. Ça marchera, évidemment. Faire le pas de la foi, faire le pas d'un engagement avec Dieu, c'est franchement pas évident. Parce que quand il est parti tout triste, Jésus va donner une explication. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les premières fois où j'ai lu ce passage, j'ai eu du mal à comprendre, parce que j'avais quelquefois essayé de coudre, obligé, et j'essayais de mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Et moi, je disais, mais comment un chameau peut rentrer là-dedans? Ça paraît compliqué quand même. Hein, comment dans le trou d'une aiguille? Oui, c'est une image, mais ce n'est pas qu'une image. C'est que dans la ville de Jérusalem, vous avez différentes portes. Et dans toutes les villes, d'ailleurs, il y avait la grande porte et la petite porte. Et la grande porte, elle était ouverte tout le long du jour. Et dès qu'arrivait le soir, on fermait. Parce qu'on avait peur. On fermait avec des grosses barres. Et si un voyageur arrivait après que les portes soient fermées, il lui restait que la petite porte pour passer. Sauf que la petite porte, elle n'était pas forcément adaptée au chargement. Et quand les gens arrivaient avec des chameaux, parce qu'on s'en servait comme animal de trait pour porter plus précisément, et qu'on arrivait devant cet endroit-là et qu'il fallait faire passer le chameau à travers la petite porte, c'était plutôt compliqué, mais on y arrivait quand même. Alors, il fallait lui le débattre, enlever tout ce qu'il avait sur le dos, et puis on le faisait passer à genoux, pauvre animal. Pauvre animal, ça a dû être compliqué. Hein. Mais on y arrivait quand même. Ah là, je comprends mieux. Mais ça signifie que pour passer par cette porte, il fallait se dépouiller de tout. Hein. Et pour entrer dans le ciel, on n'y va pas avec nos coffres-forts. Hein. On n'y va pas avec nos chargements de prétention. Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, je vais avoir un de ces palais là-haut. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Non, on a besoin de faire la paix avec Dieu. On a besoin de s'humilier devant lui. Et après avoir dit cela, les gens vont être surpris en disant « Mais alors, personne ne pourra rentrer dans le ciel. Qui peut être sauvé ?» Jésus dira « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Cet après-midi, je conclue en vous donnant une note souriante. Le sourire de Dieu se voit sur le visage de ceux qui ont fait l'expérience du salut, la transformation. Regardez Anne. Elle est rentrée chez elle, son visage n'a plus été le même, parce que Dieu lui avait tendu la main, Dieu lui avait fait grâce. Elle allait avoir un enfant et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je pense à toutes ces personnes qui ont touché le ciel d'une certaine manière, qui ont vécu une expérience avec Dieu, ça se voit immédiatement sur le visage. Vous avez un homme de l'Ancien Testament, une figure de l'Ancien Testament, qui a vécu quelque chose d'exceptionnel, c'est Moïse. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours au contact avec Dieu. Et à chaque fois qu'il allait dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, dans le sanctuaire, la Bible dit que quand il sortait de la présence de Dieu, son visage était tellement rayonnant, resplendissant, qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage. Le fait de rentrer en contact avec Dieu se reflétait physiquement, quasiment, sur la personne de Moïse. Vous avez d'autres visages qui ont resplendi, celui de Jésus lui-même. Il y a une expérience dans le Nouveau Testament qui est rapportée par plusieurs évangiles, on a appelé ça la transfiguration. Ça fait penser à une transformation quand même, hein. Transfiguration. Et Jésus va sur une montagne avec quelques-uns de ses disciples, et alors qu'ils sont tous sur la montagne, il nous est dit qu'à un moment donné, et je vais vous le lire, c'est toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, qu'on rapporte cet événement. Luc, chapitre 9 et au verset 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire et parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étant appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Pierre apportera ceci dans une de ses lettres quand il dira « Nous avons vu sa gloire sur la montagne. » Et une voix s'est fait entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Dans le fond, Dieu n'a cessé de vous sourire. En échange, qu'a-t-on fait? On ne lui a pas permis de sourire. Jésus a été arrêté. Si vous lisez la manière dont il a été arrêté et le procès qui s'en est suivi, il nous est dit qu'à un moment donné, il a été frappé devant des soldats. On a même jeté un voile sur son visage, sur sa tête, et on lui donnait des coups de poing, des gifles, on lui crachait dessus. Et on lui disait « Devine, devine !» Il a été frappé, blessé, et une fois qu'on l'a bien, bien roué de coups, on l'a obligé pendant un temps à porter une croix pour aller jusque sortir de la ville, sur une petite colline, un petit mont, le mont Golgotha. Et il portait sur lui son jugement, finalement, son arme qui allait le tuer, la croix. Et à un moment donné, n'en pouvant plus, quelqu'un portera et terminera la course jusque sur ce mont Golgotha, en portant la croix de Jésus. Ensuite, Jésus sera allongé sur cette croix et crucifié. Deux autres brigands seront crucifiés avec lui. Pour comprendre un petit peu dans quel état se trouve Jésus à ce moment-là, il n'y a aucun tableau, il n'y a rien qui nous le dit, hein, même pas le fameux suaire de Turin. Il n'y a rien qui peut nous dire en quel état était le visage, sinon la description prophétique. Dans l'Ancien Testament, encore le prophète Ésaïe, il dira ceci, « Son visage n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et il nous est dit précisément que dans ce grand moment de supplice et de sacrifice, il est dit ceci, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. » On lui a arraché la barbe, on lui a mis une couronne d'épines, avec des épines à peu près comme ça, sur le front, on l'a bien enfoncé, tant son visage était défiguré. Pouvez-vous vous rendre compte que ce visage qui vous sourit du ciel aujourd'hui, c'est un visage qui a connu la douleur et la souffrance pour vous, qui a accepté la crucifixion pour vous, qui a accepté la condamnation à votre place et qui a accepté d'aller jusqu'au bout pour que vous, cet après-midi, vous puissiez sourire enfin, pour que vous puissiez sourire enfin. Jésus est mort, mais gloire à Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts et il a apparu à plusieurs des disciples. Ça les a même surpris quand il est entré dans une maison alors qu'ils avaient bien fermé la porte. Jésus est là au milieu d'eux. Ils sont un petit peu inquiets, saisis de peur. Et Jésus va leur dire « N'ayez pas peur, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi. » Il va se montrer à eux. Et parmi tous ceux qui vont le voir, un était absent, c'était Thomas. Il n'était pas là. Et quand les disciples vont rencontrer Thomas, ils vont lui expliquer, ils vont lui dire « En quelques mots, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu Jésus. C'est pas possible, il est mort. On l'a mis au sépulcre. On se souvient à la croix, de près, de loin, on a compris. On a vu ce qui s'est passé. » Et eux de dire, non, il est vivant. Nous l'avons vu. Parce que Thomas, qui lui aussi voudrait croire, et parce qu'il aimerait tellement que ce soit vrai, parce qu'il n'était pas là, Jésus va organiser une rencontre privée, une rencontre de plus pour lui. Si vous ne saviez pas que Jésus était ressuscité d'entre les morts, nous vous le disons cet après-midi, il est vivant. Et cet après-midi, il veut vous toucher, il veut vous rassurer, il veut vous voir sourire. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de bénédiction. Alors, il a fallu passer par tout cela pour que vous puissiez vous le rencontrer. Le connaissez-vous, Jésus, l'avez-vous rencontré finalement? Nous avons vu le Seigneur. Plaise à Dieu que vous puissiez le voir. Je termine en vous recitant Psaume 34. Souvenez-vous de ce passage. Et après, on va prier. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. » On peut s'incliner ensemble et invoquer Dieu. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Nous te remercions pour ta parole, pour tous ces exemples qui sont là. Et c'est un livre ouvert pour nous, évidemment. Tous ces exemples qui nous rappellent ta fidélité, ta bienveillance, ta bonté, ta miséricorde. Tu aimes les hommes, les femmes pour les sauver. Tu les aimes tellement que tu veux délivrer leur âme de toute angoisse, de toute souffrance, de toute peine, de toute difficulté et surtout de la perdition. Tu sauves pour l'éternité, tu sauves éternellement. Alors je voudrais que plusieurs cœur tourne les regards vers toi cet après-midi afin d'être rayonnant de joie. Merci de ta faveur, merci de ta grâce, merci de les accompagner, merci de les guider, de les accompagner de ta grâce, de ta grande miséricorde. À toi l'honneur et la gloire, à toi l'honneur et la gloire. Tu aimes tes enfants, tu pardonnes la faute, l'échec, la difficulté, tu pardonnes nos manquements quand les choses ne vont pas bien. Tu pardonnes Seigneur, tu pardonnes parce que tu es un Dieu fidèle. Nous ne le sommes pas, mais toi tu l'es, tu restes fidèle. Alors je prie pour ces amis qui ne te connaissent pas, ces personnes qui ont de la détresse dans leur cœur, qui ne vont pas bien, qui cherchent des solutions, qui aimeraient savoir si Dieu les aime, si Dieu existe, si Dieu est bon pour eux. Alors je veux croire qu'au travers de ces exemples, tu leur auras répondu. Et j'aimerais prier que tu les bénisses, prier que tu leur fasses du bien et que tu interviennes dans leur vie et que leur visage soit rayonnant, comme Anne. Que leur visage ne soit plus jamais le même et qu'il y ait une réelle transformation dans leur cœur parce que tu as payé le prix pour cela. Merci d'agir, Seigneur. Amen.